CO2 Mon Amour, avec Honda Automobile, constructeur de véhicules hybrides essence électrique.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France. CO2. Contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
Mon Amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui va prendre le temps au milieu du printemps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Gaël Braouzec et Romain Lukiens à la technique, et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur que l'on pourrait appeler le bonheur est dans la pharmacie. L'assurance maladie nous l'a confirmé ce mois-ci. Le bonheur est donc dans la pharmacie. La preuve, avec 114 euros par habitant en 2009, la France reste championne d'Europe des dépenses de médicaments et décroche la deuxième place derrière l'Angleterre pour les quantités consommées. Rien à voir bien sûr avec le tournoi Destination et encore moins le Tour de France où il est de notoriété publique que nos champions carburent au féculent, à l'eau et non pas au clenbutérol, comme nous l'a récemment confirmé la Fédération Espagnole de Cyclisme au sujet du pétillant Alberto Contador. Autre bémol, nos médicaments divers et variés ne sont pas pour la plupart absolument biodégradables, pas du tout. Ils passent à travers les mailles des filets des stations d'épuration, c'est pas nouveau, et finissent évidemment dans nos mers et nos rivières. Alors bilan de l'opération, une demi-pilule de paracétamol par mètre cube d'eau de mer le long des côtes, des poissons hermaphrodites, j'en passe et des meilleurs. Une bonne nouvelle cependant, en 2009, l'écart de consommation de médicaments entre la France et le gros du peloton de nos voisins européens s'est réduit, y compris pour les antidépresseurs. Oui, donc un grand merci au Grenelle de l'environnement et au projet de taxe carbone qui nous a bien fait rire cette année-là en 2009, souvenez-vous. Tout ça, c'était bien sûr avant la catastrophe de Fukushima. Il arrivait au-dessus de la France des premières particules radioactives en provenance du Japon. Alors rangez vos comprimés d'iode, nous dit-on. Mais oui, la radioactivité est tout à fait négligeable. Reste que personne ne sait pendant combien de temps ces quantités négligeables continueront de nous tomber sur la tête. En attendant donc de sortir du nucléaire, c'est-à-dire entre 30 ou 50 ans, hein, vous avez un petit peu de temps par la petite porte, eh bien EDF nous promet un remède choc pour soigner notre accoutumance au chauffage électrique. 30% d'augmentation des prix en 5 ans. Alors nous avons décortiqué l'arnaque de la loi 9 l'autre jour avec Frédéric Danhé, mais pour faire passer la pilule, eh bien, on dira que ça ne fera que allez, 5% par an, mais oui, c'est pas grand-chose. Autre rapport de l'Agence nationale de médicaments, pour rester dans le sujet, mais de médicaments vétérinaires cette fois. Dans les élevages intensifs, les antibiotiques, c'est automatique. Veaux, vaches, cochons, poulets, c'est la tétracycline que je préfère. Eh ouais. Alors au lieu de les avaler en permanence en écoutant les médias, adoptez une couleuvre. Façon de parler, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un animal sauvage et qui doit le rester. Car contrairement à ce que pensait Lys Taylor version Cléopâtre, le venin des serpents est plein de vertus et peut même servir à fabriquer, et oui, des médicaments. Amis des laboratoires pharmaceutiques, à quand la molécule magique qui nous guérira de nos multiples addictions, charbon, gaz, pétrole, uranium, billets de banque et toujours plus, hein? Et si pour lutter contre cette maladie, on demandait à notre ex-ministre de la Santé d'organiser une grande campagne de vaccination? Le printemps est là, vous le savez, donc les jours rallongent, ça nous fait vraiment du bien, même si on va voir, allez, ce week-end, ça va être un peu moyen, peu importe, il est quand même bien installé, donc ce sera notre thème au cours de cet après-midi avec tous nos correspondants nature qui sont en direct, Jean-Marie Pell, je sais, déjà calé, mais auparavant, donc, actualité avec qui? Avec Hubert Reeves. Hubert Reeves, vous le connaissez, astrophysicien de renommée mondiale, c'est à lui que nous devons ces merveilleux mots de poussière d'étoiles, cette très très belle image. Alors il y a un bel article sur lui, dans La Vie, donc cette semaine, signé d'Olivier Noyas. Et on voit bien quel est le coming out nucléaire que vous avez fait, parce que vous avez été très longtemps de cette énergie, Hubert Reeves, et donc vous avez changé. Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour Denis.
Hubert Reeves, que vous inspire l'actualité sur le Japon, s'il vous plaît?
Oui, alors évidemment, la première question qu'on se pose, c'est comment il se fait qu'on a décidé de mettre des centrales nucléaires dans une des régions les plus actives au point de vue sismique de la planète, et qu'on a pris comme seule précaution un muret de 6 mètres ou 7 mètres de haut, alors que tout le monde sait que les tsunamis, qui sont très fréquents dans cette région, peuvent avoir des vagues de 20 mètres de haut. Comment on était amené à faire une telle erreur? Et la réponse, eh bien, si on y réfléchit bien, c'est simplement parce que, effectivement, le nucléaire, ça pose toujours le problème du risque vis-à-vis de la sécurité. Mmh. Alors, il est évident que quand on fait des plans pour une centrale, on doit confronter le prix, c'est-à-dire le profit aux actionnaires après coup, et la sécurité. Il est évident que dans ce conflit sécurité et profit, à cet endroit, on a mis l'avantage sur le profit et non pas sur la sécurité.
Ce que vous dites, c'est que c'est une technologie qui est faite pour les anges, mais malheureusement, on n'est pas des anges.
Oui, exactement. C'est une technologie qui peut être maîtrisée, mais qui ne permet pas d'erreurs. Les erreurs mécaniques, on peut les compenser, on peut y arriver. Il y a une chose qui est toujours problématique, c'est la possibilité d'erreurs humaines. Ça a été le cas à Three Mile Island, ça a été le cas à Tchernobyl. Ça, il n'y a aucune machine qui est à l'épreuve des erreurs humaines.
Mais alors, c'est très intéressant parce que l'astrophysicien que vous êtes, dans son ouvrage Mal de Terre, donc c'était en 2003, c'est vrai que dedans, vous étiez assez favorable à l'énergie nucléaire. Et donc, vous avez changé d'avis pour cette raison-là, justement, parce que vous estimez que profit et sécurité, ça ne peut pas forcément être compatible?
J'étais favorable à l'énergie nucléaire quand j'étais étudiant aux États-Unis dans les années 1950, parce que le nucléaire, ça paraissait comme l'avenir, la fin de la pauvreté dans le monde.
Bien sûr. Mmh.
Et c'est progressivement que j'en suis venu à changer d'avis et à passer à l'autre côté. Le nucléaire, maintenant, je me dis, en ce moment, on ne peut pas s'en passer, mais il faut arriver à s'en débarrasser le plus vite possible. C'est une technique trop dangereuse, justement, parce qu'elle met en conflit la sécurité et le profit. C'est le cas dans toutes les industries. Bien sûr qu'il y a des risques, qu'il y a de la fonctionnalisation, qu'il y a du laisser-aller. Mais quand il s'agit d'une industrie ordinaire, disons non nucléaire, on n'en parle pas dans toute la planète. Il n'y a pas 35 millions de personnes qui risquent de recevoir des nuages radioactifs. C'est pour ça que mon opinion sur le nucléaire, comme je vous l'ai dit, c'est trop dangereux pour les êtres humains. On ne met pas les allumettes entre les mains des enfants. On a mis les allumettes entre les mains des enfants, on a pris des risques. On a perdu. Heureusement, ça nous amène maintenant à réfléchir à nouveau sur cette question.
Alors, quels sont les critères importants pour engager une véritable mutation énergétique?
Alors, le premier critère, c'est la durabilité. Il faut penser en termes d'échelle de temps de l'humanité. L'humanité, elle existe depuis 100 000, 200 000 ans. Donc, il faut être certain de ne pas se retrouver comme aujourd'hui, on a fait avec le pétrole. Le pétrole, on s'est lancé dans le pétrole il y a 100 ans, et puis aujourd'hui, on s'est dit, ah ben tiens, il n'y en a plus, il faut faire quelque chose, le peak oil et tout ça. Je pense que là, il faut choisir des sources d'énergie qui sont durables à l'échelle de l'humanité. Et là, le charbon, le pétrole et le gaz naturel, évidemment, ne font pas le cas. Quand on fait le bilan, ça donne au plus un siècle ou deux. Le nucléaire, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, le nucléaire uranium-235, il n'y en a pas plus que du pétrole. Ça, il faut bien le dire. Les centrales que l'on a aujourd'hui ne dureront pas au-delà d'un siècle. Alors, il reste d'autres hypothèses.
L'hydrogène, on avait aussi.
Il y a le surgénérateur et puis il y a la fusion contrôlée. Mais la fusion contrôlée, pour l'instant, c'est encore à l'essai. La rentabilité est loin d'être certaine. Et je pense qu'on ne peut pas faire une politique économique sur une source d'énergie qui n'est pas sécurisée, qui n'est pas rentabilisé. C'est intéressant de continuer à l'étudier. ITER et tout ça, je trouve ça très bien. Mais on ne peut pas faire une politique économique sérieuse sur une source d'énergie qui n'est pas sécure. Alors évidemment, il reste le solaire. Le problème du solaire, c'est que pour l'instant, on n'est pas assez efficace. C'est-à-dire que le soleil nous envoie 10 000 fois plus d'énergie que nous en avons besoin. Il s'agit de récupérer un 10 000e. Ça paraît pas beaucoup. En fait, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire, mais ça indique la voie à suivre, qui est de mettre le paquet sur l'amélioration de l'efficacité des techniques de récupération de l'énergie du solaire. Et ça, ça veut dire des subventions et ça veut dire surtout l'inverse de ce qu'on a fait récemment, c'est-à-dire de diminuer le prix de rachat de l'électricité par les particuliers. Là, je pense que ça allait dans le mauvais sens. Il faut au contraire aller le plus vite possible. Le problème va être grave d'ici une cinquantaine d'années et il me paraît que la voie à suivre, c'est tout sur l'amélioration de l'efficacité de récupération de l'énergie solaire. Moi, je pense que c'est la bonne voie.
Alors, Hubert Reeves, en vous écoutant et pour conclure, on est dans une course de vitesse qui est engagée. C'est-à-dire que d'un côté, on a la détérioration de la planète et puis de l'autre, il y a quand même cette prise de conscience des problèmes qui n'existaient pas encore il y a 5 à 10 ans.
Tout à fait, ça c'est l'espoir. L'espoir, c'est de voir à quelle vitesse aujourd'hui cette réaction, cette prise de conscience se fait. C'est vraiment très encourageant. La question, c'est est-ce que c'est assez rapide? Et sur le plan précis des énergies, ça se pose comme ça. Quelle énergie dans 50 ans? C'est à cette distance, à cette dimension de temps que le problème se pose.
Voilà, merci à vous donc, Hubert. Ça fait partie, on va dire, de la diversité des expressions sur ce domaine du nucléaire. C'est un peu en débat et fort heureusement. Sur France Inter, donc, comme ailleurs, beaucoup d'émissions donc, se sont penchées dessus, puis ça va continuer. Alors évidemment, on est bien d'accord, EDF, c'est pas TEPCO. Hein, je veux dire, là où on a très bien vu ce qui s'est passé, donc avec des défaillances absolument incroyables. Donc raison de plus pour qu'il n'y ait pas d'actionnariat que ça presse sur EDF et que ça reste quand même gouverné évidemment par l'État. Donc merci Hubert Reeves. Denis, je vous renvoie, puisqu'il aime aussi les enfants et qu'il a compris que c'était par là aussi qu'il fallait vraiment, vraiment faire de l'éducation. L'univers expliqué à mes petits-enfants, c'est au seuil, c'est un autre sujet, mais l'univers expliqué à mes petits-enfants, c'est très très bien. C'est signé Hubert Reeves. Je sais que Jean-Marie Pelt est déjà là en Lorraine. Après, nous allons partir dans le Jura, nous allons aller dans le parc du Marcanterre, mais auparavant, nous allons direction Féloche.
Les petits vides et les grands vertiges, c'est tous les jours, rêve farouche, pensée sous la douche, c'est tous les jours, demande. Pardon, couper le cordon, c'est tous les jours, marcher sur des œufs, tomber amoureux, c'est tous les jours, faire un vœu, voir une voyante. Chercher les étoiles filantes, c'est tous les jours. Passer aux aveux, dans un souffle se dire adieu, c'est tous les jours. Quand la raison s'évanouit, qu'on perd le fil et qu'on en pâtit, au-dessus de nos têtes, les rêves qui nous guettent. Oh, c'est l'heure des songes et dans la nuit, se pencher sur le temps qui reste. Au-dessus de nos têtes. Petite corvée à l'abandon, les pieds glacés sous l'édredon, c'est tous les jours. Tous les jours, violents orages, doutes et naufrages, c'est tous les jours, mettre les voiles lâchées du lest, comme un fantôme pour ceux qui restent, c'est tous les jours. Folle promesse, un petit fiston ou une princesse, c'est tous les jours, c'est tous les jours, oh, oh.
C'est au de mon amour. Denis Chessou.
Et Muriel Pérez, notre programmatrice, a compris que nous aimions les balades dans cette émission. Donc ça tourne, c'est rond. Nous sommes au plein cœur du printemps. Donc tous les jours, c'était Féloche. Et tous les jours, c'est le printemps, au moins pendant 3 mois. Et là-dessus, on va être tout à fait d'accord. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis.
Bon, vous êtes en plein printemps, vous êtes chez vous en Lorraine.
Oui.
Alors c'est le moment pour vous, s'il vous plaît, de nous rappeler les mécanismes du printemps. Évidemment que ça s'est mis en place, on va dire, déjà en amont, hein, ce printemps-là.
Oui, tout à fait. Je voudrais dire un mot avant.
Oui.
J'ai été complètement d'accord avec ce que dit Hubert.
Et oui, Hubert Reeves.
Et c'est important de le dire, il faut que nous soyons nombreux à dire ça, 100% d'accord. Maintenant, le printemps. Alors, le printemps, je vais commencer par vous raconter une anecdote vécue qui est parlante en ce qui concerne notre printemps. Quand j'ai commencé mes études de pharmacie, c'était en 1952,
oui.
J'avais avec moi 6 étudiants noirs venus d'Afrique centrale et occidentale et qui étaient arrivés au mois d'octobre pour commencer leurs études de pharmacie.
Ils ont dû être surpris par le printemps.
Ils ont été époustouflés par la neige de l'hiver et au printemps, je les ai emmenés dans notre jardin à Rodemack au moment où tous les arbres fruitiers étaient en fleurs. Et ils étaient complètement émerveillés. Ils ont dit, mais nous, on a rien comme ça. Alors, effectivement, le printemps, c'est une particularité des régions tempérées, où le rythme des saisons est marqué, car sur l'équateur, il n'y a pas de saison. Il y a des jours et des nuits qui sont de longueur égale toute l'année. Il y a la même végétation toute l'année, la même température toute l'année, la même pluviométrie toute l'année. Disons qu'il n'y a pas de saison.
Et c'est pour ça qu'il y a davantage de biodiversité aussi, pour faire simple.
Alors, il y a une grande biodiversité, mais il n'y a pas cette espèce de floraison massive que nous vivons en ce moment même. Mm-hmm. Là, nous avons actuellement tous les fruitiers qui commencent à fleurir, avec leurs magnifiques fleurs blanches.
Vos mirabelliers dans le jardin, là?
Oui.
Ah, bien.
Ils débourrent, ils sont en train de fleurir.
Moi, ça m'intéresse pour septembre, hein, ça. D'accord.
Tout à fait, oui. Ça sera très bien. Et puis, il y a les pommiers avec des fleurs qui sont roses et pas rouges. Et puis, il y a aussi dans les champs l'épine blanche, qu'on dit aubépine, c'est ce que ça veut dire. Il y a l'épine noire, c'est le prunellier. Il y a l'églantine aussi qui est en fleurs. Au fond du jardin, il y a l'abricotier qui est en fleurs. Il y a les amandiers qui sont en fleurs en Méditerranée.
On se croirait dans le Midi chez vous. On a l'impression que c'est ça. C'est formidable.
Tout à fait, en ce moment, oui. même, c'est plus marqué que dans le Midi, parce que dans le Midi méditerranéen, les arbres sont verts toute l'année.
Alors Jean-Marie,
et la végétation est verte toute l'année.
Expliquez-nous quand même la mise en place. Le signal du départ, c'est quoi? Qu'est-ce qui fonctionne?
Le signal du départ, c'est la longueur des jours et des nuits. Quand les jours commencent à l'emporter sur les nuits, tout se passe par des phénomènes hormonaux, comme si les plantes lisaient la longueur des jours et des nuits. La meilleure preuve, c'est qu'il peut faire beau temps et parfois chaud au mois de janvier ou au début du mois de février, ça arrive parfois, où on a des températures qui nous étonnent et où on passe à la télé le soir au JO qu'il a fait telle température à Bayonne ou ailleurs, ça ne déclenche pas le printemps. Parce que les nuits sont trop longues. Et c'est quand les nuits deviennent plus courtes que le printemps se déclenche. Et alors, ça provoque chez nous une première marée qui est une marée reproductive, c'est-à-dire les fleurs. Et puis, viendra juste après la marée végétative, ça va être les feuilles. Et ça se suit exactement dans cet ordre-là. Pour les fleurs que l'on voit, toutes celles que j'ai citées et qui appartiennent à la famille des roses, et puis pour les arbres des forêts, les fleurs sont des chatons qui en ce moment même émettent leur pollen qui est porté par le vent, alors que les fleurs attirent naturellement les insectes.
Jean-Marie, votre fleur de printemps, quelle est-elle?
Ah, ma fleur de printemps, c'est la petite anémone Sylvie qui est dans les sous-bois, que j'aime beaucoup.
Oui.
C'est très intéressant le sous-bois parce que actuellement, dans le sous-bois, les arbres n'ont pas de feuilles, il y a beaucoup de lumière au sol, et toute une série de petites fleurs, justement cette anémone, mais aussi la petite ficaire jaune, mais aussi la petite cil bleue, mais aussi la très belle jacinthe bleue qu'on ne trouve que dans les régions à climat océanique, surtout dans le nord de la France, qui fait des tapis dans des sous-bois qui sont de toute beauté. Ces fleurs fleurissent vite, 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 parce qu'il faut qu'elles aient fini de fleurir quand les arbres auront des feuilles. Parce qu'elles sont adaptées à avoir beaucoup de lumière quand elles fleurissent et très peu de lumière quand elles ne fleurissent plus. Et les arbres, c'est pareil. Il faut que les chatons se fassent vite, vite, vite parce qu'ils pourront transporter le pollen sans que ce transport soit handicapé par les feuilles, puisque c'est le vent qui transporte le pollen et les feuilles feraient écran. Et puis quand le pollen est transporté, alors arrivent les feuilles des arbres, alors il fait plus sombre dans le sous-bois de la forêt, et alors les petites fleurs du sous-bois qui ont bien fleuri se portent merveilleusement bien avec plus d'ombre en été. Vous voyez que tout ça est très très régulé.
Tout le monde comprend le printemps avec vous. Oncle Jean-Marie raconte, c'est toujours un véritable bonheur. Cher Jean-Marie, un grand merci à vous. Et on va descendre, on va pas aller très très loin en fait de la Lorraine, parce qu'on va retrouver un garçon qui doit se trouver dans le Jura français, bien que suisse d'origine. Il s'agit de Julien Perrault, alors qu'il est un naturaliste hors pair et qui a créé depuis de très nombreuses années cette formidable revue qui s'appelle La Salamandre. Alors vous avez d'un côté, vous avez la hulotte et puis vous avez la salamandre qui est très très bien, que vous pouvez bien sûr trouver sur abonnement. Donc on vous a mis donc le site, sur le site de CO2 Mon Amour, le site de la salamandre. Bonjour Julien Perrault.
Bonjour Denis.
Comment allez-vous Julien? Ça va?
Pleine forme, je suis heureux, j'adore le printemps,
oui.
Comme Jean-Marie, et c'est vrai que c'est un moment absolument magique. Là je me trouve en pleine forêt, près de Pontarlier, dans le Haut-Doubs, à deux pas des bureaux de la salamandre. Et il y a devant moi une petite mare, et je suis comme ça penché à la surface de l'eau, je regarde un petit peu et je déguste un spectacle absolument extraordinaire.
Alors racontez-nous le printemps et les mares. D'ailleurs ça va être le thème du prochain numéro de la salamandre.
Alors, j'ai choisi ce sujet parce qu'évidemment c'est le thème de la salamandre qui paraît début avril.
Mais aussi parce que ça grouille dans les mares, donc racontez-nous, qu'est-ce que vous voyez?
Alors c'est extraordinaire, alors tout commence, là le signal déclencheur c'est moins la longueur des jours et des nuits qu'une odeur, une espèce d'odeur pénétrante d'eau, d'humidité qui diffuse au printemps autour des plans d'eau et que captent loin à la ronde de nombreux petits animaux qui ont passé tout l'hiver sous les feuilles mortes, sous les branches, sous les souches. Et ils se réveillent attirés par ce signal. Ils franchissent plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres, ce qui est un voyage gigantesque à l'échelle de leur tout petit corps et de leurs toutes petites pattes. Et ils arrivent en toute discrétion, comme ça, dans la mare. Ils plongent dans l'eau. Et ces animaux que personnellement j'adore, c'est les tritons. On dirait des petits lézards. Et puis en fait, c'est plutôt des parents des grenouilles et des crapauds. Et quand ils sortent de terre comme ça, au mois de mars, au mois d'avril, ils paraissent tout terreux, tout ternes, tout à moitié moribond. Et au moment où ils arrivent dans l'eau, au moment où ils arrivent dans la mare, ils ont une espèce de métamorphose, ils changent de peau. Et à ce moment-là, ils abordent des couleurs magnifiques, ils changent complètement et leur nouvelle peau devient une tenue de plongée colorée, magnifique. Il y en a un notamment, le triton alpestre, qui est orange sur le ventre, bleu sur le dos. Enfin, c'est des animaux extraordinaires. Alors là, ils sont en ce moment devant moi, je les vois qui frétillent dans l'eau encore toute froide. Ils sont en train de se livrer un ballet étonnant parce que les mâles dansent, évidemment, ils sont en compétition les uns aux autres, des fois ils battent. Pour séduire des femelles, évidemment, qui pondront leurs œufs dans quelques semaines.
Bon, et alors, une fois de plus, l'importance de garder ces mares en vie, parce qu'on a asséché énormément de zones humides un peu partout, enfin c'était un véritable massacre, mais là ça va, enfin, je veux dire, dans votre coin, on est plutôt dans le Haut-Doubs, elles sont pas trop menacées, quoi, les mares, mais c'est important de les garder, hein, ces mares.
Oui, alors bien sûr, c'est crucial, pas seulement pour les tritons, mais aussi pour les grenouilles, pour les crapauds, et puis pour toute une série d'insectes fascinants. Vous avez par exemple, j'en vois aussi là à côté de mes tritons, des insectes incroyables qui marchent à la surface de l'eau, qui s'appellent des gérisses, et qui avancent, ils ont des tout petits poils hydrophobes à la surface des pattes, et grâce à ça, en fait, ils arrivent à avancer sur la tension superficielle de l'eau. Et tous ces animaux, tout ce petit monde, effectivement, est à la merci d'un remblaiement, d'un amendement agricole ou autre qui fait disparaître tant de petites mares.
Eh bien, un grand merci, cher Julien Perrault. Bonjour, on voit donc à ce numéro de la Salamandre qui va sortir au mois d'avril sur les mares, mais d'une manière générale, vraiment à votre revue. Et puis à très bientôt. Et tenez, pour tout le monde, on va vous offrir. Alors, comme on dit un pot pourri. Vous allez voir qu'il n'y a rien de pourri là-dedans. Je n'ai jamais compris pourquoi on disait pourri, parce que vraiment, c'est assez incroyable. En français, ça s'appelle un medley sur le printemps.
Là-bas dans la prairie, j'attends toujours, mais en vain, une fille en organdie. Dès que le printemps revient,
au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps.
Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile.
Il y a du blé qui se fait du mouron. Les oiseaux, eux, ils disent pas non. C'est le printemps. Et à nos
chagrin qui ont des couleurs. Il y a même du printemps chez le malheur.
C'est le printemps.
Ben voilà, vous voyez, mais oui, mais Valérie Ayestarain, réalisatrice, n'a pas résisté. On peut très bien enchaîner Brel et Clo-Clo. Ne dites pas que Claude François, ça vous a pas plu. Ça fait du bien, ça aussi. Puis après, c'était Léo Ferré. Voilà. Et nous allons aller dans la baie de Somme, rejoindre Philippe Carouette. Bonjour Philippe.
Bonjour Denis.
Ça vous a fait du bien aussi, ce petit pot pourri sur le printemps, comme on dit.
Hein. Ah oui, oui. Puis voilà. C'était pas du tout pourri. Hein.
Non, pas du tout, mais absolument. Voilà, voilà. Et votre coin, où sommes-nous précisément? On est dans la campagne maritime picarde. On est dans la baie de Somme. C'est donc un des principaux atouts paysagers écologique de la Picardie, parce que les champs de betteraves, c'est un peu moins sexy, faut bien le dire. Nous sommes dans le parc du Marcantère, 200 hectares de réserves naturelles d'État et du Conservatoire du Littoral. Un endroit, on va dire, où il y a une zone de protection aérienne pour les oiseaux. Hein. On ne peut pas les flinguer quand ils passent au-dessus de chez vous, donc ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Et racontez-nous donc comment se passe le printemps chez vous, parce que là, c'est un véritable feu d'artifice.
Alors, j'étais ce matin sur le terrain et on a eu la grande surprise de voir arrivé plusieurs dizaines de coupes d'avocettes, qui sont des petits échassiers noirs et blancs, très élégants, avec le bec retroussé à la Cléopâtre et les pattes bleues.
C'est ce qu'on appelle les limicoles. Hein.
Voilà, c'est un limicole. Et on a eu la chance de les voir se poser sur les plans d'eau, mais plus précis, ils sont posés sur les îlots qu'on a aménagés cet hiver avec les guides nature. On a fait des îlots très bas avec des coquillages. Et ils ont choisi de se reposer sur ces îlots. Et là, il y a déjà des parades nuptiales, il y a déjà des comportements sympas.
Donc mais ce qui est extraordinaire, pardonnez-moi Philippe, c'est que justement, vous avez, entre guillemets, aidé la nature, mais ça s'est bien passé en faisant donc ces petites buttes et ça a fonctionné donc avec ces avocettes.
On a essayé d'avoir un cerveau d'oiseau, ce qui n'est pas difficile pour moi, ça a marché. Donc avec les guides nature, on a mis des coquillages sur les îlots et ils ont adhéré, mais ce n'est pas obligatoire. Donc on a aidé un peu la nature. Protéger la nature, c'est bien. Refaire de la nature, je dirais, c'est presque encore mieux. Parce qu'on a à se racheter de nos erreurs passées. Donc là, on essaye de réaménager des lieux qui avaient été abandonnés par la nature.
Alors, qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Donc, dans ce parc du Marcantère, je rappelle, l'origine est très belle du mot, c'est la mer qui entre dans la terre. Les hirondelles, elles sont là?
Les hirondelles, on a eu les premières le 14 mars. On a les pontes de crapauds, on parlait des mares. On a les pontes de crapauds, de grenouilles rousses, les premiers papillons avec les pans du jour. J'aime bien cette période-là parce que c'est la période des premières fois. C'est l'agenda des premières fois, donc on découvre des choses tous les jours et c'est des petits moments de bonheur. Bon, en ce moment, on en a vraiment besoin.
Une cigogne, vous avez une cigogne sous le coude?
Alors, on a quelques cigognes, je voudrais bien vous en passer une, mais elle vient de partir casser la côte. On a les premières cigognes qui sont arrivées aussi et qui viennent de pondre depuis hier, hein, le premier œuf depuis hier.
Oui.
Mais on a encore des couples qui vont arriver jusque début mai.
Qui pond en ce moment?
Les canards colverts, les premiers coupes d'oies cendrées aussi. On a un des seuls sites français où l'oie cendrée niche. Donc les cigognes, mais on est vraiment en début de nidification. Hein. On a encore beaucoup de migrateurs à arriver. Le coucou n'est pas encore arrivé. Les pouillots fitis non plus. Donc il y a encore du monde à arriver. On attend des cartes postales de l'Afrique, mais...
Ah oui.
Ils sont pas très généreux au niveau courrier, hein, donc on...
Bah non, c'est ça. Et Nils Holgersson sur une oie cendrée, vous l'avez pas vu non plus.
On l'a pas vu non plus, donc on attend les personnages en plumes et en os pour leur dire notre mécontentement, mais aussi notre grand plaisir de les voir.
Alors faites-vous plaisir, hein, ce parc du Marcantère, c'est une merveille. Moi, je fais pas, j'allais dire parce que l'anthropomorphisme parisien, loin de là, mais c'est pas très loin d'abord de la région parisienne, mais même on est en baie de Somme. Vous avez le Crotoy, vous avez cette lumière incendie. De la baie de Somme qui est une pure merveille et puis tout le travail que vous effectuez donc les uns et les autres dans ce parc du Marcantère. Un grand merci cher Philippe
On a eu une grande récompense, c'est qu'on vient d'être classé grand site de France.
Bah attendez, faut le dire.
Et ça nous a fait très plaisir parce que c'est à la fois l'accueil du public des visiteurs mais aussi les gens de la région. Donc ça a été une récompense. Je dirais pas qu'on en est fier, mais on est fier de nos habitants à plumes et des plantes et des oiseaux et de la nature.
Écoutez, si vous ne l'êtes pas, nous on est fiers pour vous. Hein.
Voilà. Merci.
Mais
merci
non, mais vraiment, c'est super. Merci à vous, cher Philippe Carouette.
Et
je sais que vous connaissez, tenez, parce que vous pratiquez la peau, alors pas du tout pour appeler l'oiseau et le flinguer, mais la peau parce que vous aimez ça. Vous connaissez cet homme qui s'appelle François Morel. Alors c'est pas le nôtre, hein, c'est pas notre François à nous, hein, c'est un homonyme, mais vous le connaissez.
Qui ne connaît pas François Morel?
Ben si, il y a quand même des gens.
L'oreille des oiseaux.
Alors, je vous emmène à sa rencontre.
Ah, c'est un plaisir.
Imaginez une montagne, nous sommes dans le Vercors, nous sommes dans le Diwa. Diwa parce que vous avez la ville de Die, vous avez Cray qui n'est pas loin. Et puis, pas très loin de la montagne du Glandas, vous avez une commune. Et puis vous avez un homme, donc, qui s'appelle François Morel. Et pas comédien, mais un peu quand même avec ses apôts. Et puis, depuis des dizaines d'années, ce naturaliste fabrique des apôts. Et quand on lui demande quelle est sa profession, moi c'est très simple. Je parle aux oiseaux. Et là, nous sommes à côté d'une petite rivière avec une boîte d'appôts d'un très joli bois. Et dedans, nous allons cueillir, picorer quelques appôts pour le plaisir de découvrir le printemps avec François Morel. Alors là, ça, c'est le cri de la poule d'eau.
C'est la poule d'eau, ça.
Je pensais que dans les appôts, on soufflait pas du tout. Là, vous le faites couiner en tapotant votre appô sur l'avant-bras.
C'est ça, je tapote, j'ai un petit soufflet en caoutchouc et ce petit soufflet, il me sert de... Il fait du vent. Et le vent fait vibrer une hanche qui est à l'intérieur d'un petit truc en métal.
Et dans ce genre de cas, toutes les poules d'eau rappliquent.
Ça dépend si on le fait bien. Hein.
Oui, faut pas les tromper quand même.
Et puis les poules d'eau, c'est un mélange entre le... C'est pas vraiment un canard, c'est pas vraiment une poule, c'est un drôle d'animal. Hein. Donc souvent elles rappliquent et puis après elles repartent aussitôt.
Alors je vois des appôts de bécasse.
Oui, ça, la bécasse, on l'entend rarement. Hein. C'est un oiseau qui est pas très très bavard. D'abord, elle était beaucoup persécutée à cause des chasseurs. Plus, c'est un oiseau qui s'identifie un peu à la terre avec son bec costaud. Elle plonge ça dans l'humus pour ramasser des petits vermisseaux. Elle est très pierre, hein, la bécasse, et donc on la voit pas trop. Mais il y a des appôts qui permettent de parler à des oiseaux que l'on voit plus facilement, comme celui-là, qui est un oiseau peut-être le plus connu.
Un oiseau suisse qui sort des pendules, c'est ça?
Également, oui, et qui permet d'avoir une fortune si on l'entend la première fois de l'année avec de l'argent dans sa poche. C'est un sale oiseau aussi.
Ah, le coucou a mauvaise réputation. Oui.
Puisqu'il n'est pas capable d'élever ses petits.
Oui, c'est un père indigne.
C'est ça, c'est un parent d'orphelin. Quoi.
Je crois même qu'il squatte dans les nids des autres. Hein.
C'est ça, bon, la mère coucou va mettre ses œufs dans le nid d'un rouge-gorge ou d'une fauvette, et puis ensuite elle s'en va.
Hein. C'est complètement immoral, quoi.
Et c'est le rouge-gorge ou la fauvette qui va élever les petits du coucou.
Ouais,
et quand tout ça éclot, le bébé coucou vire le bébé fauvette. Hein, ou il le mange, ou il le vire.
Nous avons l'aide de votre fille Jeanne, un an et demi. La qu'est-elle en train de secouer en ce moment?
Là, elle fait du merle, figurez-vous.
Elle fait du merle?
Elle fait du merle, oui.
Figure libre de merle.
Elle faisait du merle avec ce merle en caoutchouc. On a plusieurs modèles pour faire le merle, et celui-ci en bois, là. Le merle, c'est encore un peu un majordome du jardin. Ce que j'aime le mieux, d'ailleurs je ne peux pas l'imiter, c'est le bruit du merle le soir. Quand il annonce à tout le jardin qu'il faut aller se coucher, il fait une sorte de tic 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 en volant ras des fraises. Et puis là, Jeanne fait le courlis. Là.
Fais le courlis, Jeanne. Vas-y. Maintenant, quand tu t'occupes pas du micro, vas-y. Voilà, c'est pas mal quand même d'être éduqué par un papa qui vous raconte la vie à travers les appôts. Et oui, comme ça, elle a un chemin de vie qui doit être intéressant, la petite Jeanne. Donc, François Morel avec ses appôts, le site sur celui de CO2 Mon Amour. Et on va s'offrir aussi une tenue. Alors, je ne sais pas si c'est du printemps, mais en tout cas, c'est drôlement bien. C'est Kerenan, on la soutient depuis très longtemps sur France Inter. Un peu de douceur pimentée avec Kerenan. My name is Treble, donc c'était Kerenan sur France Inter. Nous sommes toujours en direct dans cette ronde des naturalistes, j'allais dire journalistes parce que c'est aussi le cas de temps en temps. Là, ce sont nos naturalistes donc sur le terrain. Ils sont tous en direct et nous allons faire un petit tour du côté du Vaucluse pour rejoindre Jean-Pierre Potelet. Bonjour Jean-Pierre Potelet.
Bonjour Denis.
Alors vous arrivez dans cette ronde parce que vous êtes vous apiculteur et donc on va s'intéresser. Absolument. Et oui, vous êtes à Jonquière. Alors on est à 25 km en fait d'Avignon. Hein. Je veux dire qu'on n'est pas très très loin de Sirion-le-Comtat, ce qui évidemment nous évoque Monsieur Fabre, entomologiste renommé. Vous avez, je pense, le Mont Ventoux sous les yeux, qui est pas loin.
Il est pas loin aussi, oui. Ah, il est pas loin. À peu près à 20 km aussi.
D'accord, vous n'allez pas le faire à vélo, mais ça, c'est pas grave.
Non.
Et non.
Pas mal de temps, non.
Je vous le conseille, hein, côté Bélouin ou Malocène, c'est très très bien. Et alors, racontez-nous, la vie des abeilles au mois de mars, comment ça se passe?
La vie des abeilles, ben, actuellement, on est en pleine pollinisation, puisque les apiculteurs, ou certains apiculteurs, mettent à disposition leurs ruches à des arboriculteurs, pour assurer la fécondation des arbres fruitiers. Donc on a commencé depuis environ le 18 février sur les abricotiers. Là, les abricotiers ont fini de fleurir. Maintenant, les ruches sont dans les cerisiers. Et depuis deux jours, j'en ai mis dans les poiriers et dans les pommiers.
Donc ça nous rappelle que les abeilles ne font pas que du miel. On le sait et en même temps, on parle très souvent de sentinelles de l'environnement, mais c'est une réalité. Et donc on aurait au moins 40% aujourd'hui de notre alimentation qui n'existerait pas si les abeilles n'étaient pas là et ne faisaient pas le travail.
Qui dépend directement de l'activité des abeilles et des autres insectes pollinisateurs, mais disons principalement des abeilles pour ce type de floraison précoce que sont les arbres fruitiers dans la région sud.
Alors aujourd'hui,
on n'a pas beaucoup d'insectes à cette saison, donc c'est les abeilles qui assurent le gros de la pollinisation de tous ces arbres.
D'accord. Alors maintenant, racontez-nous comment se passe la vie alors, entre la reine, peut-être les bourdons, les ouvrières, tout ce petit chantier donc fonctionne comment?
Donc là, les reines ici ont recommencé à pondre à partir de mi-janvier ou entre mi et fin janvier, puisque les conditions étaient favorables cette année. Donc, ce qui fait qu'on a des colonies assez fortes. Donc la reine pond entre 600 et 1000 œufs par jour, suivant les périodes de la saison, et pour renouveler les ouvrières et les mâles. Donc il y a dans la ruche, pendant l'hiver, on est entre 25 et 30 000 individus, donc ouvrières et la reine, il n'y a pas de mâles. Et à partir du printemps, elle commence à réélever des mâles pour assurer la fécondation de futures reines qui viendront durant la saison.
Alors faites-nous le point sur l'état de santé, on va dire, de vos abeilles. Vous n'êtes pas représentatif de l'ensemble de la France ni de l'Europe, mais malgré tout, qu'est-ce que vous constatez?
Cette année, les abeilles ont bien hiverné et on démarre sur des colonies qui sont quand même dans l'ensemble fortes et a priori en bonne santé. en espérant que tout continue comme ça a commencé. Mais pour l'instant, à mon niveau, j'ai des abeilles qui sont en bonne santé et des colonies qui sont relativement fortes.
Et d'une année sur l'autre, vous avez eu donc beaucoup de disparitions ou...
Il y a 2-3 ans, j'ai eu beaucoup de disparitions. L'an dernier, on a démarré la saison avec des abeilles, des ruches très faibles et qui avaient du mal à redémarrer. Cette année, je vous dis, l'hiver a été moins rude et a été beaucoup plus favorable. Les abeilles ont fini l'hiver avec des réserves, donc elles redémarrent et elles redémarrent très fort.
Voilà, donc c'est une fois de plus.
J'ai déjà récupéré un essaim hier qui est sorti d'une de mes ruches qui était un peu loin, que je n'avais pas été voir.
Bon.
Et donc c'est bon signe.
Voilà, non mais c'est ça. Bon, une fois de plus, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la France, mais c'est bien d'avoir quand même une petite température apicole de votre part. Merci à vous, Jean-Pierre Potelet. On va faire maintenant un petit tour. Elle va pas très très loin dans les Hautes-Alpes avec Christian Couloumi. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors,
Bonjour Denis.
Vous êtes sur le terrain. Quand je dis des Hautes-Alpes, en fait, on va dire la vérité. C'est que bien sûr, vous êtes originaire des Hautes-Alpes et on a fait beaucoup de sujets tous les deux ensemble. Mais là, vous êtes dans le Val d'Aoste précisément, donc un petit peu plus loin en Italie.
Exactement, je suis dans le parc national du Grand Paradis.
Oui.
Je suis à 2000 mètres d'altitude, là, entre la neige et l'herbe et la végétation qui se bat pour redémarrer. On est au tout premier printemps ici. Hein.
Alors, faites-nous vivre ce printemps montagnard. Il est très différent, bien sûr, de la plaine, on s'en doute. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça, on va dire entre 1500, 2 mètres d'altitude, dans ce qu'on appelle un peu la zone de combat?
Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs printemps, parce que à mesure que l'on monte, le printemps suit la montagne, et dans la vallée, il y a déjà les amandiers qui sont en fleurs, et où je suis, là, et dans le versant en face notamment, qui est un versant à Lubac, on avait vu ça ensemble, hein, ouais. Enneigé, c'est tout blanc, il n'y a rien du tout qui a démarré. Et autour de moi, là, l'herbe commence à pousser, et à 100 mètres, il y a une femelle du bouquetin qui est descendue, c'est pas très haut pour elle, et je pense qu'elle a été attirée par cette herbe verte qui les fait venir chaque printemps. Et puis, peu de temps avant, il y a un gypaète qui m'a survolé, là. Il doit avoir le nid quelque part, parce que le gypaète, lui, il n'attend pas le printemps pour nicher. Il commence à pondre au cœur de l'hiver, de façon à ce que son petit vienne au monde et close au printemps, au moment où il y a des choses à manger, à vivre, voilà.
On parle du gypaète barbu, hein, qui est un immense rapace. Hein. C'est une formidable envergure, ce gypaète barbu.
C'est ça, c'est très très grand. D'ailleurs, j'ai vu son ombre avant de le voir lui-même là se projeter sur la neige.
Oui.
C'était magnifique. Et puis on attend d'un jour à l'autre, vous savez, les marmottes. Les marmottes
ne
sont pas sorties, j'en ai pas encore entendu. Mais à la date où on est, il se peut qu'à certains endroits, déjà, quelques marmottes soient sorties.
Et elles se font attraper très vite, je sais pas, elles sont un peu engourdies par l'aigle qui les repère quand elles sortent du terrier ou...
Eh bien oui, c'est un moment très de grand danger pour les marmottes, ouais. Au tout début, parce que généralement elles sortent de la neige, elles font une galerie dans la neige pour sortir, et pour aller manger, parce qu'il faut bien qu'elles mangent, c'est fini le gros dodo de l'hiver, eh bien elles vont se rendre sur les endroits où il y a un peu de neige. Et pour ça, eh bien elles s'éloignent de 100 mètres, 150 mètres de leur terrier, et là elles sont extrêmement vulnérables, et comme sur la neige on les voit très très bien, ben, l'aigle se régale, quoi.
Le chamois, les petits chamois ne sont pas encore nés, c'est un peu trop tôt là.
Non, c'est un petit peu trop tôt. Les petits chamois, ce sera au mois de mai. Ça va commencer au mois de mai, mai-juin, voilà. Pour l'instant, les chamois, puisque vous en parlez, ont un moment difficile à vivre. Parce que si le printemps est bon, les femelles qui vont faire leurs petits, donc dans un mois et demi, deux mois, vont tenir le coup. Mais vous savez, c'est ça la différence de la montagne. C'est qu'avec l'altitude, on peut avoir un gros coup d'hiver encore maintenant, jusqu'en avril, jusqu'à fin avril. Et à ce moment-là, les animaux comme le chamois, comme le bouquetin dont on parlait également, eh bien, ils vont avoir à résister. Et ils sont à bout de force, ils ont traversé l'hiver. Et un deuxième hiver sur le gros hiver qui vient de passer, ça serait très difficile. Alors on leur souhaite un beau printemps jusqu'au bout pour que ces petits chamois aillent gambader sur les névés bientôt.
Et puis parlez-nous de cet arbre emblématique, j'allais dire, qui lui perd ses plumes. Enfin, c'est-à-dire pendant l'hiver, c'est le mélèze. Et ce mélèze fait partie donc des rares résineux à ne pas garder sa verdure, comme l'épicéa ou comme le sapin. Où en est-il, oui. Lui?
Eh bien, les mélèzes, j'ai vu mais tout en bas dans la vallée, bah, dans les Hautes-Alpes, justement, près de chez moi, des premières touffes d'aiguilles qui commencent à sortir. Mais là où je suis, ils sont décharnés complètement. Et c'est vrai que les gens qui viennent dans ces régions, qui ne connaissent pas les mélèzes, ont une impression de mort, de tristesse, alors que bientôt, tout va redémarrer. Et le mélèze est un arbre magnifique qui laisse passer la lumière, qui change de couleur en fonction des saisons. Et son premier plumage, puisque vous évoquiez une mue, et bien ce premier plumage est vert tendre, très beau, très doux, il filtre la lumière, et c'est un arbre magnifique, vous avez bien raison de le dire.
Avant de se quitter, Christian Couloumi, faites-nous rêver encore un peu, je le rappelle, vous êtes autour de 2000 mètres d'altitude, là, vous êtes dans le Val d'Aoste, dans ce grand paradis, grand paradiso, qu'allez-vous faire là? en fin de journée.
Bah là, je vais essayer de redescendre par où je suis monté. C'est pas forcément évident. Il y a des petits endroits de neige que j'ai pas aimé en montant, et en descendant, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et je vais dormir dans la vallée. Et demain, je changerai de vallée. J'irai dans le Val Savaranche, qui est une autre vallée du Grand Paradis, où là, j'ai un rendez-vous, j'espère, avec une colonie de bouquetins. Oh, et ça, je sais pas encore. C'est la surprise. Vous savez, la nature, on sait jamais ce qui va se présenter. On est là, on attend. Si on a les yeux et les oreilles ouverts, eh bien, on aura peut-être un cadeau. C'est ce cadeau que j'espère demain.
On se retrouve très bientôt. Ce sera sur le terrain. Merci à vous, cher Christian Coloumi. Et puis, tenez, on va vous dédier. On a entendu un petit extrait tout à l'heure dans le pot-pourri de Léo Ferré. Là, un petit peu plus, on adore cette valse du printemps.
Il y a la nature qui est tout en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et y a du blé qui se fait du mouron. Les oiseaux, eux, ils disent pas non. C'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs. Et y a même du printemps chez le malheur. Et à la nature qui se tape un bol. À la santé du rossignol, c'est le printemps. Et à le Beaujolais qui la ramène. Et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu.
Et c'est toujours le printemps. Voilà, cette valse de Léo Ferré, on l'entend pas souvent, hein, donc on s'est fait un peu plaisir, faut bien le dire. Nous étions, vous l'avez compris, récapitulatif. Donc dans cette émission, en direct avec Jean-Marie Pelt, nous étions en Lorraine. Nous étions avec Philippe Pirouette en Baie-de-Somme. Nous étions avec Julien Perrault dans le département du Doubs avec Sémar. Nous étions après avec Jean-Pierre Potelet, nous étions avec des abeilles dans le Vaucluse. Nous étions avec Christian Coloumi, certes des Hautes-Alpes, mais dans le Val d'Aoste. Vous avez tout bon là, jusqu'à présent c'est bien. Je vois que vous opinez, donc c'est parfait. Et il nous manque un coin de France. Non, bien sûr qu'il nous manque plein de coins de France, mais on va retrouver grand plaisir. Alors, un homme que vous pouvez écouter sur France Bleu Limousin, ils ont beaucoup de chance avec Naturellement Destination Nature, c'est Jean-Michel Tellier. Bonjour Jean-Michel Tellier.
Bonjour Denis.
Alors, nous sommes chez vous, Jean-Michel. C'est-à-dire, nous sommes en Saint-Try. Ça s'écrit avec un X. Dites-nous dans quel. Parce que c'est pas le coin le plus connu du Limousin. Où est-on exactement?
Ah non, c'est certainement même auprès des Limousins, l'un des endroits qui est le moins connu. On est en Limousin, on est dans le département de la Corrèze, et à l'extrême sud-est du département, frontière avec le Quercy, frontière avec l'Auvergne, dans l'un des endroits les plus sauvages. On parle souvent en Limousin du plateau de Mille Vaches, évidemment mythique, plateau de Mille Vaches que vous avez arpenté avec...
Avec vous, mais avec vous, et qui signifie bien les Mille Vasques, hein. C'est pas les vaches, hein, on est bien d'accord,
non,
ce sont les sources.
L'eau est omniprésente aussi bien sur le plateau de Mille Vaches, d'ailleurs qu'en Saint-Try. Et ce qui caractérise vraiment ce pays, c'est sa qualité, je dirais, paysagère et naturelle, avec des profondes vallées, toutes classées Natura 2000, donc des sites vraiment d'importance pour la nature. Je pense à la Serre, je pense à la Maronne, qui est juste à côté de chez moi, et puis la Dordogne, évidemment, la rivière Espérance, qui est un fleuve, quasiment, qui accueille pêle-mêle des aigles beautés, des aigles mangeurs de serpents, et puis quantité d'oiseaux migrateurs qui utilisent ce formidable repère pour remonter plus au nord de l'Europe.
Alors, nous allons regarder fleurir quoi? On a déjà un peu évoqué les prunelliers, mais ils vous touchent beaucoup, donc peut-être quelques mots sur ce prunellier.
Ah, franchement, dans cette émission, on explique les choses, on les caractérise, on les interprète, mais c'est vrai que la nature, également, ça se ressent. Hein, on n'a pas besoin d'être naturaliste pour être ému, comme en ce moment, par les fleurs blanches des prunelliers ou les fameux pissenlits, en ce moment, qui sont en train de transformer nos prairies vertes en prairies jaunes. L'or du pré est en train de montrer le bout de son nez, et ça, c'est magnifique. Il faut se laisser émouvoir par ces petits spectacles permanents que nous offre la nature.
Nous avons des hirondelles rustiques, peut-être?
Oh là là, je les ai vues durant cette semaine. C'est toujours merveilleux. En effet, dès qu'elles arrivent, elles paradent, elles marquent le territoire. Elles sont arrivées bon an mal an aux mêmes périodes. Elles suivent l'isotherme maximum de 9 degrés, c'est-à-dire qu'en même temps que l'émergence, l'apparition des insectes, les hirondelles arrivent chez nous et moi je les attends impatiemment dans ma grange, les portes sont ouvertes.
Alors. Chouette. Alors nous évoquâmes déjà un peu les crapauds, mais enfin pardon, on a évoqué plutôt le triton avec Julien Perrault. Je voudrais que l'on passe peut-être à la grue parce que nous allons bientôt changer d'émission, 15 heures n'est pas très loin, mais la migration de la grue, ça c'est important, c'est-à-dire que c'est un grand classique qui compte et qui rythme la vie des Limousins.
Ah oui, vraiment, parce qu'on est une région, vous le savez, hein, plutôt rurale, évidemment, on en est satisfait, on aime vivre dans cette campagne limousine.
Elle est belle,
et les urbains, du côté de Limoges, du côté de Brive, Tulle, eh bien, sont toujours aussi émus par le passage de ces escadrilles, de ces V, de ces W dans le ciel. Et puis, au-delà de les voir, vous le savez, les grues, on les entend. Et c'est toujours aussi étonnant de les entendre arriver. Elles rythment les saisons et elles sont en train de nous dire, elles sont passées hein, d'ores et déjà, que le printemps arrive, que le printemps est là. Et les Limousins sont toujours très attentifs à cela. D'ailleurs, les médias en font toujours la une de l'actualité lorsque les grues passent dans notre région.
Ça les change, ça fait toujours un petit peu de bien. Quand vous parlez des migrations, qu'on comprenne bien, parce que tout le monde ne parle pas forcément la grue, donc elles viennent d'où et elles vont où? Puisqu'elles passent au-dessus de chez vous.
Voilà, alors c'est vrai que c'est un oiseau énorme, 1,20 m, c'est l'un des plus grands échassiers d'Europe, mais en même temps, elle fait un petit saut de puce. Si on les comparait aux hirondelles, elles ne font guère que 1500-2000 km, elles partent de la Suède où elles sont nées, Norvège, Finlande évidemment, et elles vont passer plutôt l'hiver en Espagne. Je dis plutôt, parce que désormais, il y a à peu près la moitié de la population des grues cendrées qui passent l'hiver en France, entre l'est de la France et les Landes de Gascogne, et tout le long de ce couloir migratoire large de 200 km, eh bien, on trouve désormais des grues qui passent l'hiver chez nous en France.
Alors moi, j'ai une grue qui est superbe, qui s'appelle « L'incroyable histoire de Trana la grue ». Ça, c'est un texte de quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Tellière. Bah oui, justement, avec des illustrations de Catherine Fauri-Juteau. Alain Bougrat-Dubourg en a fait la préface. C'est aux éditions du Terran, c'est cela ou...
Alors non, c'est un 100% limousin, cet ouvrage. Ah, les illustrations, super. Le texte, et puis l'éditeur qui est Lucien Soumis.
Voilà, donc aux éditions Lucien Soumis. On va mettre tout ceci aussi sur le site de CO2 Mon Amour. Un grand merci, hein, Jean-Michel Tellière. Merci à vous. Et puis vraiment, merci à tous nos correspondants nature. Donc je vous renvoie hein, sur France Bleu Limousin. Là, ils ont un très très bon. Hein, Jean-Michel Tellière, il n'y a pas de problème. Toutes les semaines sur France Bleu Limousin. Merci. D'abord, merci au printemps. Et bien sûr, merci à Gaël Braouzek, à Romain Luquiens aujourd'hui à la technique, à Marion Lelay, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et Valérie Ayestaraï qui a réalisé l'émission. Anne Gouzon a nourri les sites. Il y en a plein, les sites de CO2 Mon Amour. Ça, c'est Brou, là aussi, de ce côté-là. Vous pouvez donc podcaster. En général, ça marche. Pas toujours, mais ça marche. L'émission pendant une semaine, donc l'enregistrer, puis la réécouter pendant 4 semaines. L'as-tu lu, mon petit loup, vous connaissez? Mais oui, le loup au printemps, qu'est-ce qu'il fait? Bah, les petits loups, en tout cas, on s'en occupe. Ce sera demain, dimanche, 19h54, après les petits bateaux, après Noël Bréham. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. On avait un peu de pub.